Bonjour, je suis Serge Marchand et j'ai le plaisir de vous inviter à nouveau à un balado de Passion Science. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec Stéphane Guétin. Stéphane, comme vous allez l'entendre, c'est un passionné de musique, mais c'est aussi un scientifique de la musique. Il a un diplôme de musicologie, donc la science de la musique, mais il s'est intéressé aussi à l'effet de la musique sur la santé. Donc, il a fait une formation en musicothérapie. Mais ça ne s'est pas arrêté là, il a aussi fait un doctorat en psychologie clinique. Par la suite, Stéphane est intervenu à différents endroits et a décidé de fonder une entreprise qui s'appelle Musicaire. Musicaire a produit une application avec différents types de musique dans lequel il va jouer avec les rythmes pour faire relaxer les gens et pour réduire la douleur. Et là, ce n'est pas uniquement une impression de Stéphane ou de ses collaborateurs. Il a publié, avec des collègues, plusieurs articles scientifiques qui montrent que ça fonctionne vraiment. On arrive à réduire la douleur avec la musique. Alors, j'espère que, comme moi, vous allez trouver cette entrevue passionnante. Alors, au plaisir d'être avec vous, avec Stéphane Guétin. Bonjour Stéphane!
Bonjour Serge.
Ah, écoute, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir ici dans mon balado. Tu sais, je t'ai expliqué un peu avant, j'aime beaucoup les passionnés de la science, si tu veux, et puis ben, tu fais partie des amis que j'ai qui sont des passionnés de la science. Alors, j'aimerais que tu me racontes Musicaire. J'ai expliqué aux auditeurs un peu avant que tu étais le président, directeur général, mais aussi le fondateur, en fait, de Musicaire. Mais j'aimerais que tu nous expliques un peu ce que c'est. Mais dans un premier temps, peut-être te présenter, dire, c'est qui Stéphane Guétin?
Avec plaisir, Serge. Merci encore de me donner l'opportunité de me présenter et de présenter mes 20 ans de travail. Alors peut-être en une vingtaine de minutes ou une trentaine de minutes, mais on va essayer d'être concis. Donc Stéphane Guétin, je suis à la base musicothérapeute. Et c'est vrai que déjà à l'époque, en 1996, je m'étais déjà intéressé à ce type d'études qui était quand même très innovante et très peu connue. Et suite à ces différentes études, ces 3 ans d'études à Montpellier dans le domaine de la musicothérapie, qu'il faut pas confondre avec la musicologie, hein, qui est vraiment effectivement l'étude de la musique dans un but thérapeutique, comment la musique va agir sur le cerveau et avoir un impact dans la santé, alors que la musicologie, on est plus sur l'étude de la musique à travers le temps et les compositeurs. Je me permets de te préciser que j'ai aussi un master recherche en musicologie, j'ai un diplôme universitaire en musicothérapie, donc 3 ans à la faculté de Montpellier dans le cadre d'un diplôme universitaire, et parallèlement pour pouvoir intégrer des équipes de recherche scientifiques, notamment l'INSERM en France, je suis aussi passé par la case de la psychologie clinique, donc une voie aujourd'hui plus reconnue au niveau universitaire, qui m'a permis d'obtenir un doctorat et vraiment de cibler mes recherches de façon très spécifique sur l'impact de la musique dans la gestion quelque part des émotions, et particulièrement et principalement de la douleur, et donc des composantes associées comme l'anxiété, la dépression, les consommations médicamenteuses.
Stéphane, moi je me souviens très très bien, c'était en Suisse en fait, pendant un congrès où tous les deux on faisait une présentation, et bon, écoute, la chimie s'est faite, il y a des gens comme ça qu'on rencontre et tout de suite, on les trouve hyper sympathiques, donc ça a été le cas quand je t'ai rencontré. On s'est rencontrés, on est allé prendre un café ensemble et puis on s'est mis à parler ensemble de sciences, de recherche, de neurosciences. Tu m'as introduit aussi tous les projets que tu faisais en musique et j'ai tout de suite été passionné. Explique-moi comment on passe de... parce que tu es un musicien au départ, t'aimais la musique dès le départ, comment on passe de la musique à la musicothérapie à devenir un entrepreneur?
Alors c'est une bonne question. Je me souviens très très bien de cette première rencontre. Hein. On peut dire la vérité, on avait séché les dernières conférences
pour aller au
Et je me souviens qu'effectivement on était parti dans des discussions qui ne pouvaient plus s'arrêter. On avait mis en place les premières études qu'on pourra décrire tout à l'heure. Alors comment on passe d'un musicien, un musicothérapeute, à un entrepreneur, ça s'est fait complètement naturellement. Et c'est vrai que pour redonner un petit peu sens à ton émission, je crois que j'ai fait de ma passion mon métier. Et c'est vrai que ma passion, c'est la musique. Depuis mon plus jeune âge, depuis mes 4-5 ans, j'ai toujours vu ma mère jouer du piano, mes grands-parents qui étaient dans la musique, mais aussi mes grands-parents qui étaient dans une autre branche, aussi dans le côté médical. Donc dans ma famille, j'ai toujours baigné dans la médecine et le côté artistique, la musique. Mon grand-père était un grand musicien et j'ai aussi des oncles qui sont des grands médecins rhumatologues et qui m'ont aussi accompagné dans les premières études au CHU de Montpellier. On reviendra dessus, mais effectivement, les premières études ont été dans le domaine de la rhumatologie, de la douleur chronique. Donc vraiment un apport, d'abord un amour pour la musique, un amour, j'allais dire, vraiment presque sensoriel, hein, c'est vraiment une enveloppe, un plaisir, j'allais dire, charnel que je ressentais par la musique, un plaisir cognitif où je ne voyais plus le temps passer, tous les soucis s'oubliaient, et parce qu'on était concentré sur la musique, à commencer à jouer, à apprendre et à progresser, donc on voit ces progrès aussi s'opérer, donc il y a un travail aussi de valorisation qui s'opère grâce à la musique. Et un plaisir avant tout social. Je crois que mes premiers copains, et sans m'en rendre compte, et je m'en suis rendu compte plus tard, c'est qu'à 14 ans, j'ai commencé à jouer de la basse électrique, après avoir fait du piano. J'ai commencé à monter mon premier groupe de rock'n'roll, comme tous les ados de 14 ans. Et en fait, ces musiciens, le guitariste, le bassiste, sont devenus mes meilleurs copains. Et de mes 14 ans, et en fait, ce qui est marrant, c'est que ça reste mes meilleurs copains 30 ans après. Alors, je n'ai pas tout à fait 44 ans, 47 pour ceux qui veulent savoir, mais voilà, plus de 30 ans après, c'est toujours resté mes meilleurs amis et j'ai toujours ces souvenirs gravés au niveau de ces répétitions, ces compositions qu'on faisait ensemble, ces concerts. Et ça a été pour moi une découverte du pouvoir social de la musique, émotionnel, puisque beaucoup de plaisir. Et j'allais dire, au niveau de toutes les composantes, même au niveau du comportement, parce qu'au lieu d'aller faire des bêtises comme un jeune de 14 ans, j'étais concentré à aller m'enfermer dans un studio de musique et à jouer de la musique, qui était quand même beaucoup plus positif que d'autres activités qui pourraient être un petit peu différentes. Mais il y en a pour tous les goûts, j'allais dire, mais la musique, c'est vrai que ça a tout de suite résonné en moi et je me suis rapidement aperçu du pouvoir que ça pouvait avoir. Et ensuite, très concrètement, à 16 ans, pour gagner mon argent de poche, en plus de mes études scolaires, je travaillais auprès des jeunes en tant qu'éducateur et animateur. Voilà. Et je pense que c'est là que vraiment tout le lien s'est fait, déjà pour passer du côté musicien au côté scientifique, et de la compréhension des mécanismes de la musique et de son pouvoir au niveau des différentes composantes. Et c'est en travaillant avec ces jeunes, je veux dire de façon très égoïste à la rigueur, j'ai utilisé la musique plus à titre personnel, parce qu'en tant qu'animateur, tous les après-midi, il faut mettre en place des animations d'une heure, deux heures, de trois heures. Donc certains animateurs allaient jouer au foot, prenaient des groupes de 5-6 enfants pour aller jouer au foot, d'autres animateurs prenaient des groupes de 5-6 enfants pour aller faire de la peinture, et moi, naturellement, dans ces centres aérés, dans ces centres d'animation, je trouvais souvent des instruments, des xylophones, des petites percussions. Et tout de suite, j'ai mis en place des petits ateliers de musique, où je me suis aperçu que ces jeunes, souvent en difficulté, parce que je travaillais dans les quartiers dits difficiles de la ville de Paris, les quartiers nord, pendant l'été, donc c'était souvent des jeunes qui n'avaient pas les moyens de partir en vacances, souvent des familles très nombreuses, donc avec des très agités aussi, à Paris, en plus au mois d'été, effectivement c'est dur de pouvoir, j'allais dire, s'oxygéner, et la musique, ça a tout de suite été un terrain, j'allais dire, de plaisir et d'expression pour ces jeunes, qui normalement avait tendance à pouvoir se bagarrer, à se taquiner, à se courir après. Et par la musique, on arrivait à canaliser, à communiquer, à s'écouter. Et en fait, moi déjà, à titre personnel, mes après-midi passaient beaucoup plus vite. Et en intégrant la musique dans mon travail, tout de suite, je me suis aperçu que je commençais à travailler 8h du matin, que je terminais 17h, et que j'avais pas vu la journée passer. Et en plus de ça, les jeunes, tous les jours, me redemandaient, Stéphane, quand est-ce qu'on fait de la musique? Et c'est là, petit à petit, après ces 2 ans de travail dans les centres aérés, donc quand j'ai eu 18 ans mon bac, il a fallu que je m'oriente professionnellement vers des études plus poussées. Et j'ai réussi à trouver cette université à Montpellier qui proposait de la musicothérapie et comprendre comment la musique justement agissait sur tous ces paramètres.
La musicothérapie pour les gens, on a une idée, hein, c'est de la thérapie par la musique, mais peut-être nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est en gros, peut-être plus en détail que ce que la moyenne des gens connaissent.
Alors, c'est marrant, alors c'est vrai que tu m'as dit en début d'émission que tu voulais aussi un petit peu connaître le personnage Stéphane Guettin et bien sûr mon travail, mais j'ai une petite anecdote assez marrante quand même. À 18 ans, après avoir justement, au moment de la transition, au moment d'avoir eu mon bac et de s'orienter vers un métier professionnalisé, effectivement, je me souviens toujours de ma mère qui m'a enfermé dans ma chambre avec un bouquin qui s'appelait « Tous les métiers de la musique ». Et à 18 ans, je ne savais pas où m'orienter, je ne connaissais pas encore la musicothérapie, ce terme n'existait même pas. j'allais m'orienter plus, ayant eu un bac B économique et social, vers le management culturel, donc m'occuper de musiciens et de leur carrière et d'organiser des tournées, mais qui au fond de moi quand même avait une relation très administrative et moins intéressante. Donc je me dis, au moins travailler en relation avec les musiciens, ça peut être intéressant. Donc j'étais encore un peu ambigu, je ne savais pas quoi faire vraiment de ma vie, et ma mère m'a enfermé dans ma chambre, elle m'a acheté ce bouquin, Tous les métiers de la musique, elle me dit, tu sors pas de ta chambre avant d'avoir trouvé ton métier. Et c'est en fait dans ce... C'est pour ça que c'est important quand même comme petite anecdote, parce que j'ai, en feuilletant ce bouquin, effectivement, c'est là que je suis tombé sur diplôme universitaire musicothérapie. Et comme toi, je ne savais pas ce que voulait dire musicothérapie, mais tout de suite ça a résonné. Je me suis dit, bah, c'est vrai, moi j'adore la musique, j'hésitais entre le management culturel ou devenir musicien professionnel, mais je sais que j'étais pas passé par la case conservatoire, j'étais pas non plus le champion du monde de la musique, mais passionné. Et ce mot musicothérapie m'a tout de suite intrigué. J'ai été aussi me renseigner, j'ai vu, justement, j'hésitais fortement entre Montpellier ou Montréal.
Ah d'accord.
Ah oui, je m'en souviens très très bien. J'avais déjà contacté Isabelle Pérez à l'époque, qui était responsable, et j'ai dû choisir entre Montpellier ou Montréal, et j'ai choisi le soleil. Mais non, mais avec grand plaisir. En tout cas, enfin les deux. Et aujourd'hui, j'ai des relations très proches avec Montréal, et c'est vraiment une université aussi qui a été vraiment très pionnière, même avant hein, Montpellier, dans le développement de la recherche et de la formation dans le domaine de la musicothérapie. Pour enfin répondre à ta question, qu'est-ce que la musicothérapie? Et ben, pour reprendre un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est vraiment l'étude de la musique et son impact dans un but thérapeutique. Aujourd'hui, il y a différentes techniques de musicothérapie. Ça va être le but d'utiliser la musique et le son et de comprendre son impact sur l'être humain et de voir comment on peut utiliser cette musique pour répondre quelque part à des objectifs thérapeutiques. Je vais essayer de m'expliquer un petit peu. Et dans le domaine de la musicothérapie aussi, on l'identifie selon différentes techniques. Il y a la musicothérapie dite réceptive, donc qui va être basée sur l'écoute musicale. Et il y a la musicothérapie qu'on appelle dite active, qui va être plus basée sur la pratique instrumentale. Et en fonction de ces techniques, on va pouvoir justement travailler avec des personnes en difficulté, en souffrance. Et ma première activité professionnelle dans le domaine de la musicothérapie, pendant que j'étais étudiant à Montpellier, dès la deuxième année, j'ai eu la chance d'avoir un ami qui avait monté tout un travail de musicothérapie au milieu carcéral.
Ah, d'accord.
Pour te donner un exemple très concret. Et ça a été sans doute, musicaire, c'est ma passion, c'est ma vie aujourd'hui, mais même pour être tout à fait transparent, je crois que ma plus belle expérience professionnelle a été en milieu carcéral pendant 8 ans. Ça, j'en parle pas beaucoup, donc c'est peut-être une occasion pour moi d'en parler aujourd'hui.
Oui, c'est important quand même, le milieu carcéral. Je trouve ça très intéressant de savoir que tu es intervenu là avec la musique.
Ah, complètement. La musique, c'est un super moyen de s'évader. Et pour tout. Je fais des petits jeux de mots.
C'est bon.
Non, mais ça a été une expérience extrêmement forte, dans le sens où aussi la notion du temps, et dans notre étude, peut-être qu'on pourra en parler aussi, Serge, dans notre étude qu'on a publiée ensemble sur la perception du temps, quand on aime la musique, la perception du temps est beaucoup plus est altérée.
Tout à fait.
Et en prison, pareil, moi, les plus beaux souvenirs que j'ai, alors que je faisais des séances de 1 heure avec des jeunes, ce sont des mineurs incarcérés, donc il y avait entre 13 et 18 ans, et à la fin de les séances, le jeune qui me dit « Stéphane, ça fait déjà 1 heure, j'ai pas vu le temps passer ». Et là, j'en avais la chair de poule. Quand on sait qu'en prison, la notion du temps est la pire des tortures, quand quelqu'un vous dit en prison « j'ai pas vu le temps passer », eh ben, c'est des moments très très rares, et aussi où ils peuvent prendre conscience que par l'occupation, j'allais dire, du cerveau, par l'art et la musique, on arrive justement quelque part à mettre en place des distorsions au niveau du temps et au niveau émotionnel, affectif, cognitif, et on arrive à des résultats vraiment très très forts. Et en prison, donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup de dimensions, et avant tout, ça a été aussi de passer par la valorisation. La prison ne doit pas être un moment de punition, mais un moment de réinsertion, de rééducation. Et donc ça a été pour moi un lien très fort, et aujourd'hui, tu sais, musicaire, son sujet, c'est musique et douleur, la prison, l'enfermement, comme une forme de douleur. Donc pour moi, il y a un lien complètement naturel entre tout mon travail qui s'est fait en prison ou dans les hôpitaux aujourd'hui.
Très intéressant, Stéphane, parce que tu sais qu'avant de faire les neurosciences, avant de devenir chercheur en neurosciences, j'ai travaillé avec des jeunes dans des instituts en délinquance et tout ça. Et effectivement, toute la réinsertion se fait par plusieurs moyens. Je trouve que la musique, moi je ne suis pas musicien, donc je n'avais pas cette chance de pouvoir l'utiliser, mais je trouve ça fascinant. Du côté thérapeutique, quand on parle de thérapie par la musique, selon toi, selon ce que tu sais, est-ce qu'on imagine facilement des thérapies au niveau psychologique? Par exemple, dépression, anxiété, peur ou quoi que ce soit. Donc, on peut imaginer que la musique est un aide, mais est-ce qu'il y a des études qui supportent que ça a un effet physiologique qu'on peut mesurer, que les gens ont une réponse physiologique? Est-ce qu'on peut s'attaquer à des problèmes qu'on connaît comme étant physiologique. Donc, est-ce que ça touche à différents types de thérapies ou c'est ciblé pour certaines choses?
Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux études scientifiques, on arrive à élargir vraiment le champ d'application. Quand on parle du mot musicothérapie, c'est très connoté. Ah oui, on imagine ça avec les autistes, en psychiatrie, c'est très psychologique. Alors que non, je pense que la musique joue un rôle fondamental de façon très transversale. Aujourd'hui, on a l'expérience et l'expérience de travailler avec des hôpitaux ou music care, notre technique, on en reviendra plus tard, mais en tout cas, on a développé une solution qui utilise la musique pour gérer la douleur et l'anxiété et qui est utilisée de façon très transversale et notamment dans certains centres hospitaliers, développée dans plus de 40 services. On parle de la maternité, de la néonate, de la chirurgie de la cataracte chez les patients chez qui on va, alors qu'on n'aurait pas pu penser que la musique pourrait avoir une place très importante au moment où on va vous opérer de l'œil. Mais il y a une pression dans ce cas, justement, de cette très belle étude qu'on a publiée aussi récemment dans le JAMA Ophtalmologie, sur une étude sur plus de 300 patients, sur la chirurgie de la cataracte. On s'aperçoit que les patients sont hyper anxieux avant, et que la fréquence cardiaque et respiratoire est très élevée, et qu'il va falloir aux anesthésistes injecter beaucoup de sédatifs pour que le patient soit plus calme, et pour que l'anesthésiste et le chirurgien surtout puissent opérer. Mais un patient ultra stressé ne pourra pas tenir en place sur une table d'opération, et que grâce à la musique, et ça les études aujourd'hui le confirment de façon très robuste, on arrive à complètement calmer le patient, à le mettre presque en état hypnotique, et qui va permettre l'acte opératoire d'être réalisé de façon beaucoup plus simple et efficace tout simplement. Et les études montrent qu'on arrive à réduire, dans cette même étude qu'on a publiée dans le JAMA Ophtalmo, on a réussi à réduire de 92% les consommations de sédatifs. On est vraiment sur des critères objectifs, on n'est plus sur l'évaluation de la douleur ou de l'anxiété entre 0 et 10 ressenti par le patient, mais vraiment sur des critères aujourd'hui concrets et objectifs.
Très intéressant, Stéphane, parce que, et tu sais, bon, on en a parlé ensemble parce qu'on a même fait une étude ensemble, mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on dépasse, tu sais, toutes les approches qu'on pourrait appeler alternatives aux approches conventionnelles comme la chirurgie, la pharmacologie, qui est très, très utilisée en médecine, qui domine, en fait. Quand on parlait des approches plus alternatives, dont l'utilisation de la musique avant, un peu comme tu le disais, il y avait comme une espèce de recul en disant « Ah oui, ben c'est bien pour certains aspects psychologiques », comme si c'était moins important. Mais on sait pertinemment que quand on joue sur l'anxiété, quand on joue sur la peur, quand on joue sur toutes les composantes psychologiques, on a un effet sur le corps. On n'a qu'à penser à l'effet placebo, on n'a qu'à penser aux attentes ou quoi que ce soit. On joue aussi sur la physiologie du corps. Donc, c'est ce que vous montrez. Puis écoute, quand on publie dans JAMA, c'est parce que l'étude est bien faite et je sais qu'il y a plein d'autres articles aussi. Si je résume, ton enfance avec la musique, ça semble avoir été une passion très, très jeune. Ensuite, tu l'appliques dans différents milieux et tout à coup, tu réalises, moi, je pense qu'on peut faire quelque chose avec ça et qu'on peut même en faire une entreprise et lancer le produit. Alors, raconte-nous un peu comment ça se passe.
Ah oui, là, je t'ai raconté effectivement le passage du musicien au scientifique en passant par toutes ces études. Et aujourd'hui, ce qu'il a fallu, suite à toutes ces études, c'était standardiser et rendre reproductible la méthodologie. Et ça a été tout le travail qu'on a fait avec nos équipes INSERM, de pouvoir mettre à disposition une technologie qui soit facilement utilisable et standardisée et bien sûr reproductible. Quand je faisais une première revue de la littérature scientifique, je m'apercevais que certains utilisaient du Mozart. Quand il y avait des études différentes dans d'autres pays, ça pouvait être l'utilisation d'une musique italienne ou flamenco. et rien de standardisé. Ensuite, il y avait des études qui disaient, attention, dans le traitement de la douleur, le tempo est important. Si vous utilisez une musique avec un tempo à 120 BPM, donc un battement par minute deux fois plus vite que la seconde, ça va aussi avoir une influence sur le cœur, sur les paramètres hémodynamiques et respiratoires. Tandis qu'une musique à des tempos très lents va favoriser justement une respiration plus profonde, plus stabilisée, et comme on en parlait tout à l'heure aussi, un petit peu en dehors de notre cadre, une influence sur la variabilité cardiaque notamment. Et ça, c'est important, et la musique joue complètement là-dessus. Et c'est à partir de là, en faisant cette revue de la littérature, qu'on a identifié, avec des équipes de recherche, tous les facteurs prédictifs de réussite. Ensuite, j'ai vu des études, ah bah tiens, il faut mieux utiliser une musique instrumentale que chanter. Parce que s'il y a des textes, il peut y avoir du chant, hein, il peut y avoir la voix, mais des onomatopées, pas d'accord, de texte. S'il y a des textes, notre cerveau va comprendre et va essayer d'analyser et faire intervenir des zones cérébrales qui vont quelque part empêcher l'effet de relaxation et de méditation pour être vraiment dans un état de relâchement total. Donc à partir de tous ces paramètres, c'est là qu'on a développé, pareil, le temps de la séance. Il y avait des études où des études qui utilisaient que 10 minutes de musique, des études une heure, et on s'est aperçu, quand on faisait une sorte de méta-analyse, qu'à partir de 20 minutes, on avait déjà des effets très intéressants de l'impact de la musique sur le traitement de la douleur. 20 minutes, en plus, ça correspond aussi à des cycles de sommeil, des cycles de relaxation, donc ça paraît aussi très cohérent. Et après avoir, bah, quelque part standardisé tous ces paramètres, c'est là qu'on a développé ce qu'on appelle la séquence en U, qui a été quelque part la standardisation de la méthode et qui permettait au niveau théorique de se caler aussi sur toutes les techniques d'hypnoanalgésie qui, elle aussi, de façon parallèle, montrait son efficacité et son intérêt aussi dans différents contextes médicaux. Et l'hypnose, en fait, c'est tout simplement l'utilisation de la voix avec des suggestions pour amener un état modifié de conscience. La musique aussi, en tant que musicologue et musicothérapeute, on sait que c'est la base du langage, que c'est l'origine même du langage et que c'est le langage universel. Quand on parle, on n'émet que des sons et notre cerveau analyse chaque son.
Tout à fait.
Et la musique, quelque part. Et en hypnose, le but de l'hypnose, principalement de façon très schématisée, il y a trois phases. Il y a une phase d'induction, on va partir de notre état de conscience et on va essayer d'amener le patient à un état modifié par les variations, notamment des paramètres, bien sûr, de la parole. Mais l'hypnothérapeute utilise surtout la voix qui va être de plus en plus douce, de plus en plus espacée, pour arriver à cet état modifié de conscience et de relaxation profonde. Et ensuite, il y a cette troisième et dernière phase qu'on appelle la phase d'éveil, pour redynamiser le patient et le réintégrer, je veux dire le ramener dans le contexte actuel. Et musicalement, c'est très facile de pouvoir reproduire ces trois phases, une phase d'induction. On va partir d'un tempo aussi un peu stimulant, au même titre le flux verbal, et on va demander à nos compositeurs, puisque vous allez voir, je vais vous expliquer, c'est une musique spécifiquement composée dans ce cadre, et on va demander à nos compositeurs de réduire le tempo en passant de 120 BPM à 60 BPM. On va utiliser des fréquences de plus en plus basses qui, elles aussi, ont démontré leur impact au niveau de la relaxation, alors qu'on sait que des sons très aigus comme un violon ou des trompettes vont au contraire tendance à exciter, alors que des fréquences basses ont tendance à endormir. Donc on va progressivement moduler tous ces paramètres du son qui, en fait, vont se synchroniser avec les paramètres physiologiques. Et ça, on ne le savait pas vraiment, on le savait, mais les études l'ont bien montré. Et ensuite, on redynamise le patient, cette phase d'éveil, par une réintroduction progressive d'un tempo plus stimulant et une formation orchestrale un peu plus construite.
Stéphane, je prends deux secondes, c'est tellement intéressant. Je prends deux secondes pour reparler de la fameuse courbe en U que j'ai vu, que je t'ai vu travailler et que j'ai vu utiliser en labo aussi. Et c'est fascinant pour l'avoir essayé moi-même. Et après, tu vas voir, il y a un domaine que moi, je ne comprenais pas et que tu viens d'expliquer que je trouve tellement intéressant. C'est qu'au début, comme tu dis, la fréquence est quand même assez élevée. C'est un tempo qui est agréable, éveillant et tout ça. Et sans que vraiment on s'en aperçoive. Et c'est peut-être là qu'est un détail important. Ça diminue, mais c'est très, très subtil. Bien sûr, c'est pas un changement qui serait un peu choquant. C'est un changement qui est très subtil et qui nous amène un peu contre notre gré, finalement. C'est assez impressionnant, vers un état de relaxation. Alors, si on a les yeux ouverts, déjà on est plus relaxé, mais si on a les yeux fermés, on est vraiment en train de partir, si on veut. Et après, ben, la durée, on la décide, hein, on peut l'avoir plus longue, plus courte. Alors, vraiment, ton application permet vraiment de dire, ben, écoute, j'y vais, j'ai une longue période et puis je veux un retour, ou si on veut dormir, on peut le laisser comme ça puis s'endormir. Donc, il y a toutes sortes de possibilités. Mais ce qui m'a impressionné, tu vas me confirmer si j'ai bien compris, tu es en train de me dire que c'est pas un jeu que tu fais avec des ordinateurs en disant « je bois toujours le même tempo, je vais le modifier de façon informatique », mais c'est vraiment pendant que tu enregistres avec l'équipe, ça se passe en temps réel.
Oui, complètement, parce que aussi le critère principal qui a été identifié, et je garde le meilleur pour la fin, c'est l'adaptation culturelle. C'est-à-dire peu importe le style de musique, voilà, la séquence en U sera construite selon tous les styles de musique, mais le premier traitement de la douleur, et ça je me souviens toujours aussi dans le centre antidouleur à Montpellier avec le docteur Gignès, je pense que c'est un labo qui avait mis cette affiche, qui disait le premier traitement de la douleur, c'est l'écoute. Et j'avais, en tant que psychologue, je me suis dit, ça, c'est sympa comme discours, c'est pas un médicament, je m'attendais à ce qu'ils mettent le paracétamol, le premier traitement de la douleur, le médoc. Et non, là, c'était l'écoute du patient. Et là, ça m'a rassuré, je me suis dit, moi qui faisais mes premières études en musicothérapie, je me suis dit, c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas mieux dans la prise en charge de la douleur comme symbolique de l'écoute. Je vais voir mon patient, je vais lui proposer une écoute musicale, je vais lui demander quel style de musique il aime, quel est son rapport avec la musique. Et le but du musicothérapeute aussi, c'est pour ça que la formation est très importante, et contrairement dans un hôpital, on ne donne pas juste l'application, et c'est pour ça qu'on donne pas, on dit pas aux soignants d'aller télécharger l'application, mais il y a toute une procédure, tout un protocole de formation, d'adaptation, pour pouvoir expliquer aux patients aussi comment ça se passe. Il faut que le soignant qui a été formé comprenne comment les mécanismes et comment ça marche. D'abord, aujourd'hui, il n'y a pas d'intervention non médicamenteuse possible s'il n'y a pas la formation des soignants. Que ce soit en hypnose, en aromathérapie, en tout ce qu'on veut, la formation est fondamentale. Et donc, cette relation d'écoute est vraiment très importante. Et ce que j'aime à dire, pour revenir un petit peu avec la prison tout à l'heure, mes plus belles séances de musicothérapie, c'est celles où je n'ai même pas eu à utiliser la musique. J'ai eu des séances avec des petits jeunes, j'appelle mes petits jeunes en prison parce qu'ils avaient 13 ans. Il me disait, Stéphane, non, aujourd'hui, je veux pas jouer de musique. J'ai eu un parloir fantôme. C'est-à-dire qu'il y a sa mère qui devait venir lui rendre visite, qui a eu un problème, des embouteillages, elle n'a pas pu être là. Et là, ils sont tellement dans l'angoisse. Je dis, tu veux annuler? Non, non, je veux rester là. Et il veut juste me parler à la fin. C'est qu'on crée une relation de confiance autour de cette musique. Où, quelque part, c'est la relation humaine avant tout. La musique, c'est qu'un outil. Elle va être très puissante. Mais moi, dans une relation, dans une séance de musicothérapie, ou même quand un soignant, une infirmière, aide soignante, infirmier, anesthésiste, utilise musicaire, ce que je veux, c'est qu'il y ait une relation d'écoute, de confiance qui se crée autour de cette musique.
Et il y a autre chose, Stéphane, qui est très intéressante, c'est que tu viens de parler de culture aussi, et t'es allé enregistrer à travers le monde. Moi, je me souviens qu'une fois, on devait se parler, on devait échanger sur quelque chose, et tu me dis, je reviens de Polynésie, ou je sais plus trop où, je suis allé enregistrer de la musique avec un groupe là-bas. Alors, t'as vraiment enregistré des gens un peu partout, et moi, j'ai vu l'application que tu utilises, l'appli sur mon iPhone, et ce qu'il y avait, c'est que on a des échantillons de différents styles musicaux, parce que même si on nous pose la question « quelle est votre musique préférée? », si on n'est pas un grand spécialiste de musique, on peut sortir des termes, mais si on les entend, on va dire « ah oui, ça j'aime bien, ça j'aime moins », et on choisit en plus le style de musique qu'on aime. Alors, sur le plan culturel, sur le plan éducation, sur le plan environnement, on peut avoir été, pour toutes sortes de raisons, avoir eu des expériences positives avec un style de musique et au contraire, des expériences plus négatives avec d'autres, donc, si je comprends bien.
Complètement, et c'est une question importante, pourquoi on compose nous-mêmes notre musique? Tout au début, tout au début de mes recherches, j'avais pas les moyens de faire composer la musique, j'avais pas de structure, donc j'utilisais de la musique connue que j'allais chercher dans les disques de mes copains, j'allais dans les médiathèques, parce que moi je me souviens très bien de mes premiers patients, j'avais un patient marocain, juste après j'avais un patient africain, juste après j'avais une dame de 70 ans qui habitait en Bretagne, et pour le lendemain, il fallait que j'organise mes montages. À l'époque, j'appelais ça des montages en U avec des cassettes. Hein. Je parle de ça en 97. Il n'y avait même pas le CD. Il y avait le CD, mais j'enregistrais sur cassette pour faire mes montages. Et ça a été très dur au niveau culturel parce que je devais aller chercher tout style de musique. Mais après, ce que je m'apercevais, c'est que certains, par exemple, je prends l'exemple du patient marocain qui me dit « Ah oui, vous avez utilisé Cheb Chaïd, je connais très bien. » Et en fait, au lieu de l'amener dans un état de relaxation, je me dis « Bah dude, il connaît. » Et ça lui rappelait des souvenirs autobiographiques. Et aussi, autre chose qu'on retrouve petit à petit dans les études, et notamment des études canadiennes, ça a été fait récemment en soins palliatifs, notamment avec ton collègue Pierre Rainville, qui a publié ça récemment. en soins palliatifs qui ont démontré, même par la musique, que si on mettait un morceau connu pendant un événement anxiogène ou de maladie, et ben la mémoire émotionnelle va associer cette musique à ce moment critique.
Ah, ok. D'accord.
Encore plus simple, je vais, et là, enfin, je prends l'exemple de, si je pars en réanimation pour une raison X ou Y, on m'intube, et au moment où on m'extube, très douloureux, on me réveille, et on me met Jim Morrison, Les Doors, qui est mon morceau préféré, Riders on the Storm, ce morceau que j'adore. Donc, sur le moment, on démontre que ça va faire du bien, ça va détourner l'attention de la douleur, mais par contre, quand je vais réécouter mon morceau préféré des Doors, tout de suite, au contraire, là, je vais me dire, oh là là, ce morceau, je peux plus l'écouter. Et donc, c'est pour ça que c'est important, avec Musicaire, de rester sur une musique émotionnelle, composée par les plus grands musiciens. Donc, bon, Jim Morrison n'est plus de ce monde. Mais, voilà, on espérait travailler sur une musique qui se rapprocherait le plus des Doors, par exemple, mais qui ne permettrait pas une association émotionnelle directement avec la vie autobiographique.
Donc, si je comprends bien, tu rencontres des gens, tu rencontres des musiciens, soit des petits groupes, soit un guitariste avec un autre, ou des groupes. J'ai vu quelques vidéos que tu as sur Internet sur ça, et tu vas vraiment faire de la musique avec ces gens.
Ah bah complètement, et ça c'est la partie fun du travail, hein. C'est vraiment l'alchimie entre la science et la musique. Moi j'adore la science et la recherche, donc quand on publie ensemble et que tu sais ce que c'est la cerise sur le gâteau, c'est une recherche et 50 travail, et le jour où c'est publié, quelque part tu tournes une page et tu peux dire allez, on passe à autre chose. Et avec la musique c'est pareil, moi c'est vraiment ma passion, hein. Et donc j'ai la chance, au même titre que je cherche la qualité scientifique optimale dans la musique, qui est mon traitement principal. Je peux pas utiliser une musique mal enregistrée ou des petits compositeurs qui n'auront pas ce pouvoir, je vais dire, de produire de l'émotion de haute qualité. Donc on a la chance de sensibiliser des grands musiciens, et c'est vrai qu'on a eu la chance là récemment d'enregistrer au Mali avec Toumani Diabaté, qui est le plus grand joueur de kora et qui a beaucoup de sens, parce que quand je discute avec eux et que j'enregistre avec eux, la famille Toumani Diabaté, c'est une caste de descendance africaine de plusieurs millénaires qui ont toujours utilisé la musique dans une position thérapeutique.
D'accord.
Et donc, même au niveau ancestral et de transmission orale, la musique a un sens, et chaque mélodie, quelque part, est composée, est étudiée pour avoir une répercussion émotionnelle. Et ce que j'aime vraiment avec Musicaire, c'est d'essayer de faire le lien, le pont entre les nouvelles technologies, l'ultra-modernité, on parle de thérapie digitale, d'algorithme, mais quand même de pas oublier d'aller puiser chez nos ancêtres une connaissance qu'il faut bien sûr démontrer scientifiquement. Mais de temps en temps, la science n'a pas les outils pour comprendre des choses qui sont empiriques. Je veux dire, la musique, hein, on sait tous que depuis, elle a toujours été intégrée dans la médecine depuis la nuit des temps, qu'on fait une recherche bibliographique. Avant même qu'on parle de médecine, on parlait de guérisseurs, on parlait de chamans, de sorciers. Et là, on n'utilisait pas des médicaments, on utilisait de la phytothérapie, on utilisait des plantes, des potions.
Des chants, et ainsi de suite, tout à fait.
L'incantation, tu l'as dit, l'incantation était présente. Et c'est en fait, on s'aperçoit quand on fait des études musicothérapeutiques ou musicologiques, que c'est à une époque très cartésienne, 17e siècle, où toute la science est érigée en techno, en tout, très pragmatique, où tout ce qui n'était pas vraiment scientifique a été écarté, tout ce qu'on ne pouvait pas contrôler, évaluer. Et la musique, comme c'est une mise en vibration de l'air, on ne peut pas la voir, on ne peut pas l'évaluer, c'est que grâce aux années 90, au moment des nouvelles techniques d'imagerie cérébrale, qu'on a pu enfin voir physiquement, et j'ai par la preuve, que la musique agissait bien sur le cerveau. Et c'est grâce à ces nouvelles techniques d'imagerie cérébrale qu'aujourd'hui la musique reprend sa place, je vais dire, dans une médecine.
Et tu sais quoi, Stéphane, une autre chose qui s'est passée, je dirais, dans les 15 ou 20 dernières années, moi, tu sais, je fais des neurosciences depuis plus de 30 ans, là, et je me souviens qu'à une époque, quand on faisait de la recherche, même sur la douleur en tant que telle, qui est une perception, hein, la douleur, on ne la mesure pas avec des outils, on peut bien sûr mesurer les conséquences de la douleur, hein, au niveau cardiaque, au niveau de différentes réponses physiologiques, mais la douleur en tant que telle est une perception. Alors, quand on faisait de la recherche sur la douleur, c'était perçu un peu comme de la science molle, si tu veux. Et est arrivé tous les projets de recherche avec des grands chercheurs sur la conscience, par exemple. La conscience, on ne peut pas non plus prendre un outil et la mesurer, hein, ça se mesure mesure mal. Donc, mais ouais. on peut se poser des questions sur la conscience. On peut faire de l'enregistrement de l'activité cérébrale. On peut se poser des questions sur des techniques comme la mémoire, par exemple. La mémoire aussi, c'est un phénomène. Alors, et là, tranquillement, l'hypnose est arrivée comme une, a été étudiée de façon très scientifique et la musique. Et je pense que toi, avec les différentes équipes que tu as rencontrées en recherche et tout ça, et d'autres chercheurs dans le domaine, on fait évoluer, si tu veux, notre compréhension. Et moi, je suis très sensible pour avoir fait de la recherche sur la douleur pendant toutes ces années. Je m'aperçois que tout le côté pharmacopée, si on veut, ou tout le côté pharmacologique, c'est bien. Hein, il faut que ça continue à évoluer, bien sûr, on veut que ça continue à évoluer, mais ce n'est pas suffisant. Hein, il y a de la douleur chronique qui continue. Alors, quand on a des approches comme la musique qui arrive, ben, c'est merveilleux, ça nous permet d'ajouter des outils en tant que tel. Et écoute, Stéphane, je trouve ça fascinant. Tu sais que, et tu le sais, chaque fois qu'on se rencontre, et d'ailleurs, on devrait se rencontrer cet été au mois de juin, on en reparlera, mais chaque fois qu'on se rencontre, on en a pour des heures à discuter de tous les projets qu'on pourrait faire en tant que tel. J'aimerais que tu me dises, en terminant, que tu me donnes quelques statistiques, si tu les as en tête, bien sûr. Combien de groupes t'as enregistré, tu penses, jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu as une idée de la quantité?
Donc, aujourd'hui, on a une 60aine de séquences en U qui sont... aujourd'hui possible et écoutable sur l'application.
Très intéressant.
On parlait de traitements alternatifs complémentaires, mais aujourd'hui c'est une bonne question, la place du médicament par rapport aux ces interventions médicamenteuses où elles doivent être associées et bien sûr prises en compte toutes les deux. Mais on peut se poser une vraie question sur la médecine complémentaire et alternative. Quand on regarde les recommandations de la HAS aujourd'hui, donc la recommandation des hautes autorités de santé, il y a des recommandations qui disent qu'en première intention, on doit utiliser l'intervention non médicamenteuse, et on réévalue, et si ça ne marche pas, on passe par la case médicaments.
Tout à fait.
Et c'est aussi d'insuffler, c'est un peu mon mot final, mais pour dire attention, la musique c'est peut-être pas l'alternatif, C'est peut-être le médicament
qui l'est, et je trouve ça très drôle que tu dises ça, parce qu'effectivement, c'est un terme qu'on essaie d'oublier, qu'on essaie de changer. On devrait oublier, arrêter de dire alternatif. Ça fait toujours un peu parallèle, moins sérieux, mais en bout de piste... Tout ça, ce sont des approches, et toutes ces approches utilisées en parallèle ont des forces différentes, vont toucher à différentes choses. On sait que la musique, ça vient chercher les émotions dès le départ. On n'a pas besoin d'expliquer ça très longtemps. Tout le monde, n'importe qui, à peu près tout le monde qui a écouté de la musique va dire « Ah oui, ça vient chercher des émotions positives, négatives, mais ça fait quelque chose et on le sent physiologiquement. » Donc, c'est assez sérieux. Écoute, Stéphane, comme on disait, on pourrait en parler pendant des heures. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Ça a été un vrai plaisir. Je suis content aussi que les auditeurs puissent connaître un peu ton chemin, parce que moi, je le connaissais et je le trouve fascinant et je suis très content de voir le développement qui se passe avec Musicaire et je souhaite que ça continue très longtemps.
Merci infiniment, Serge. Et ce parcours, il est aussi grâce à toi, tes équipes universitaires. C'est un travail d'équipe et tout seul, je n'en serais pas là non plus. Donc, je veux aussi remercier tous ces professeurs, institutions qui ont cru en ce projet, parce qu'il y a encore une vingtaine d'années, c'était encore un peu farfelu, et il a fallu quelque part casser des barrières pour en arriver là, et je remercie aussi toutes les personnes qui nous ont accompagnés jusqu'à là.
Super, merci Stéphane.
Merci Serge.